Chapitre 27. Une autre vie. La flèche se planta dans le lézard, exactement dans la zone pâle de la gorge, là où la cuirasse est plus tendre. Un garçon de 10 ans surgit sans attendre la dernière contorsion de l'animal. Il brandissait une longue sarbacane. Il regarda le lézard s'effondrer définitivement. C'était un minuscule lézard, mais il y avait de quoi nourrir une famille pendant un hiver. L'enfant contempla l'animal avec fierté. Après une telle prise, il allait pouvoir se choisir un nom. On ne l'appellerait plus brin de lin, il le savait. La largeur de la toile du vêtement était à la mesure de l'âge. Les petits enfants vivaient tout nus. Puis on leur mettait autour de la taille une petite bande de lin, on les appelait alors brin de lin, et chaque année, on retissait quelques nouvelles rangées. On disait d'une jeune fille, elle a un peu de lin, et d'un vieillard, il porte sur lui un champ de lin blanc. À 15 ans, le vêtement couvrait depuis les cuisses jusqu'à la poitrine. À la fin de la vie, une dernière rangée de tissu transformait la robe en linceul. Un peu après l'âge de 10 ans, à la suite d'un acte de bravoure, les enfants se choisissaient un nom. Le jeune chasseur savait déjà celui qu'il allait prendre. Il voulait s'appeler Tête de Lune. Il se mit à courir entre les herbes jaunes. La terre diffusait une vraie chaleur d'août. D'une minute à l'autre, un campagnol pouvait surgir et s'emparer du lézard. Il devait appeler du renfort pour débiter la bête et mettre la belle chair rouge en réserve pour l'hiver. Après 10 minutes de course, il parvint à une tige qu'il escalada facilement. Tout en haut s'élevait l'épi où sa sœur et lui avaient pris leur quartier d'été. Un grain avait été roulé et basculé par-dessus bord pour laisser une chambre arrondie qui sentait bon le pain. « Ilaya, j'en ai eu un !» Ilaya ouvrit un œil. C'était l'heure de la sieste. Elle dormait par terre dans la lumière jaune avec seulement un oreiller de farine. Elle avait des cheveux très longs qui formait autour d'elle des faisceaux sombres parsemés d'une poudre dorée. « Qu'est-ce qu'il y a, brin de lin ?» Le petit garçon s'arrêta net. « Ne m'appelle plus jamais comme ça !» Elle sourit en s'étirant. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu un lézard !» Elle sourit encore une fois. Tête de Lune aimait ce sourire qui n'était revenu que depuis quelques mois seulement sur les lèvres de sa sœur. Ilaya avait connu un grand malheur 2 ans auparavant. Elle était fiancée à un garçon qui s'appelait Vidoff. Il était mort dans des circonstances tragiques. Pendant des mois, 2 années en tout, elle avait paru inconsolable. Depuis peu, elle se mettait à revivre. « Je vais demander de l'aide, » dit Tête de Lune en grimpant tout en haut de l'épi. Il entendit la voix d'Ilaya qui criait « Comment tu vas t'appeler ?» Brin de lin, hein? Comment? Parvenu au sommet de l'épi, il hurla. Je m'appelle Tête de Lune! Il était à la hauteur des cimes d'herbe, et l'immense prairie couleur d'or s'étendait de tous côtés avec, au loin, l'ombre dense de l'arbre. Un éblouissement. Les hautes tiges se balançaient lentement et créaient comme des courants qui traversaient la prairie. L'été offrait l'unique belle saison de l'année. Seuls les orages pouvaient gâcher cette période bénie et la transformer en enfer. Qu'est-ce qui se passe? L'appel venait d'un épi voisin où quelqu'un avait entendu son cri sauvage. Ah, c'est toi, brin de lin? Je m'appelle Ted le Lune. J'ai besoin d'aide près du chardon. J'ai eu un lézard. L'autre, sur son épi, poussa un cri dans une autre direction. Ainsi fut relayée la nouvelle d'épi en épi. Quelques minutes plus tard, ils étaient nombreux autour de la dépouille du lézard, à découper chacun son morceau de viande fraîche. La chasse au lézard était rare. Même si la viande de ce dangereux reptile était un délice, le lézard avait le mérite de protéger des moustiques en les éliminant par dizaines. Le moustique représentait une menace plus pernicieuse que le lézard. L'expression « il n'y a pas de lézard » signifiait surtout « s'il n'y a pas de lézard, c'est qu'il n'y a pas de moustique, donc la vie est belle. Ainsi ne chassait-on le lézard que 4 jours par an, autour du 15 août. Jolie prise, Brindelin, bravo! Je ne m'appelle plus Brindelin, je m'appelle Tête de Lune. Tête de Lune tournait autour de son trophée. Il cherchait quelqu'un. Tu cherches qui, Brindelin? Je m'appelle Tête de Lune, mettez-vous ça dans la tête! Celui qu'il voulait trouver n'était pas là. Il aurait pourtant aimé partager cette joie avec lui. Il s'approcha d'un garçon plus vieux que lui et lança « Toi, Haro, apporte ma part de viande dans l'épi et confie-le à ma sœur, Ilaya. J'ai une chose urgente à faire. » Haro essaya de ne pas rire, mais il s'attendrissait de ce brusque changement dans le ton de Brindelin. La veille encore, ce n'était qu'un petit garçon. Maintenant, il semblait lui donner des ordres et s'inventait des affaires urgentes. « À tes ordres, Brindelin. » Tête de Lune soupira. « Je ne m'appelle plus Brindelin. » Il disparut derrière le chardon en maugréant. Il ne lui fallut pas longtemps pour arriver au pied d'une touffe de roseaux secs. Les roseaux étaient formés de longues feuilles roulées sur elles-mêmes. Dès le mois de septembre, ils baignaient dans l'eau et attiraient les moustiques. Mais par ce beau mois d'août, ces faisceaux ressemblaient à des longues tours qui auraient pu encadrer un palais de verdure. Quelqu'un y avait d'ailleurs élu domicile. Celui que, justement... Une flèche frôla Tête de Lune et vint traverser le petit ruban de lin qui dépassait de son vêtement. La pointe acheva sa course dans le roseau où elle se planta profondément. L'enfant se retrouva épinglé à cet énorme poteau. Il tenta de se détacher de la flèche, mais n'y parvint pas. Le lin était tissé pour durer toute une vie. D'où venait cette flèche? Tête de Lune finit par s'avouer que le seul moyen de s'en sortir était d'abandonner son habit et de filer tout nu. Mais ça, il n'en était pas question. Il n'était plus Brindelin. Il tendit l'oreille. Le bruit venait d'un petit tas d'herbes sèches un peu plus bas. C'était un coassement grave. Terrifié, Tête de Lune tourbillonna sur lui-même, se dégagea entièrement du tissu jaune qui l'habillait et s'enfuit dans la direction opposée. Il entendit alors un grand éclat de rire. Se retournant, il découvrit un jeune garçon d'au moins 15 ans, pas très grand, mais les jambes bien campées sur la terre et les épaules déjà solides. Il tenait une sarbacane plus longue que lui. Tête de Lune plongea sous la paille pour se cacher en criant « C'est toi qui as fait ça, petit arbre !» Toby n'avait pas vraiment changé. Mais 2 années avec le peuple des herbes laissaient forcément une trace dans le regard. Il paraissait plus sauvage. Quand il était revenu, avec Brindelin sur ses épaules, tout le monde avait été touché par le courage de ce garçon qui allait au-devant de ceux qui l'avaient condamné. Il avait raconté la mort de Vidoff et provoqué la fulgurante peine d'Ilaya. Elle lui avait jeté des poignées de boue, puis elle avait voulu en manger. « Tu l'as tué! Tu l'as tué !» Il fouissait ses poings noirs dans sa propre bouche. On se mit à 4 pour la tenir. Tête de Lune expliqua à sa sœur que Toby n'y était pour rien. Mais personne ne pouvait contenir le chagrin et la rancœur de la jeune fille. Elle portait un masque de haine. Le courage de Toby, son émotion devant Ilaya prouvait qu'il n'était pas un ennemi comme les autres. Mais les pelés, une nouvelle fois, décidèrent de le reconduire dans l'arbre. Trop de malheurs étaient descendus de cette planète verte. Tout ce qui venait de l'arbre devait y retourner. Toby entendit ce nouveau verdict sans y croire. L'expédition partit dès le lendemain. Cette fois-ci, Toby était accompagné par 2 hommes. Ils le portaient roulé dans un hamac suspendu à une perche qu'il se calait sur l'épaule. Le 3e matin, les 2 pelés réalisèrent qu'ils transportaient une toile remplie d'un mannequin de terre. Toby leur avait encore une fois échappé. Ils repartirent vers chez eux pour annoncer que Petit Arbre s'était enfui. Mais ils le retrouvèrent assis à côté de Tête de Lune, devant une assemblée perplexe. Toby était arrivé avant eux. Comment se débarrasser de ce feu follet? « Tu dois retourner chez toi, Tuez-moi plutôt, je n'ai pas de chez moi. » La foule dépelée ronronnait à chaque réponse de Toby. Ce petit parlait comme l'un des leurs. Il semblait né dans les herbes. Pour la troisième fois, on trouva des volontaires qui voulurent bien l'accompagner jusqu'à la grande frontière. Le matin du départ, avant même le lever du jour, une fine pluie tombait sur la prairie. Toby, attaché en hauteur à un fuseau d'herbe, regardait les pelés sortir de leur abri pour s'exposer à l'eau pure dans la nuit sans lune. Il voyait la boue dégouliner sur leur peau. Lui-même, suspendu en l'air, jetait la tête en arrière pour recevoir les gouttes de pluie. Une goutte plus grosse que les autres tomba sur lui et le lava en un instant. Alors, tous les pelés qui se trouvaient alentour se tournèrent vers lui. Toby décela dans leurs yeux écarquillés un reflet bleu. Des enfants s'approchèrent les premiers sous la pluie battante. Puis, tout le peuple se rassembla sous lui. Il fixait le dessous de ses pieds. Toby découvrit sur la plante de ses pieds le mince filet lumineux qui dégageait une couleur bleue. C'était la ligne dessinée par Elisha à l'encre de chenille avant son départ. Une fois lavée à l'eau de pluie, cette ligne luisait dans la nuit, comme le dessous des pieds d'Elisha. On détacha Toby de sa tige d'herbe. Il ne comprenait plus rien. « Reste. Fais ce que tu veux. Tu as le signe. » Voilà ce qu'on lui dit avant de l'abandonner, libre, sous la pluie. La foule se dispersait dans un halo bleuté. Sous leurs pieds, lavés par la pluie, était apparu le même trait d'encre lumineuse. Toby, incrédule, se traîna ce matin-là jusqu'au petit bosquet de roseaux. Il y passa les premiers mois sans autre visite que celle de Tête de Lune, qui venait à l'insu de sa sœur. « Elle ne veut pas que je m'occupe de toi. Elle est trop triste. Obéis-lui. Ne viens plus me voir. » Mais Tête de Lune alla chaque jour rendre visite à Toby. Lentement, le petit lui enseigna en secret comment vivre dans l'herbe. Lentement, Toby découvrit la dureté de cette vie. Il fut d'abord tenu à l'écart. La communauté craignait ce garçon apparu de nulle part, mais qui portait le signe comme l'un des leurs. Premier été, Toby ne se douta pas de ce que pouvait signifier une vie entière passée dans l'herbe. Le temps était doux et sec, les conditions idéales. Il apprit auprès de Tête de Lune à chasser avec une sarbacane. Il eut toujours de quoi manger et aménagea son abri dans les roseaux. Il retrouvait la joie d'être libre. C'était la seule joie qui lui restait. Mais les premiers orages de la fin août le ramenèrent à la réalité. Toute la prairie fut inondée. À partir de ce jour et pendant 6 mois, il ne vit plus brin de lin. Quand arriva l'automne, il avait déjà déménagé 3 fois pour fuir l'eau, la boue, le vent. Et le pire l'attendait. Les premières gelées furent terribles, puis la neige ne manqua pas. L'hiver ne fut qu'un interminable combat. Maltraité par les rigueurs du ciel, embourbé dans la terre, Toby ne pensait plus, ne souffrait plus. Il survivait. Par miracle, il avait débusqué avant la neige un morceau d'un minuscule tubercule qui lui servit de pitance. Il devint un enfant sauvage, petit animal ramassé sur lui, qui affronte l'hiver avec un seul instinct, tenir. Au premier jour du printemps, quand un groupe de chasseurs pelés se retrouva nez à nez avec un petit être aux cheveux désordonnés et au regard dur comme la glace, ils ne purent reconnaître Toby. « C'est moi, je suis petit arbre !» Les chasseurs eurent un mouvement de recul. Feu Follet avait survécu à l'enfer. Les gens de l'herbe changèrent désormais de regard sur Petit Arbre. Peu à peu, ils l'intégrèrent à la vie commune. Toby découvrit alors les secrets de survie accumulés par ce peuple au fil des générations. 2 fois, il rencontra Ilaya qui refusa de croiser son regard. 2 fois, elle lui rappela la silhouette butée d'Elisha. Il chassait ce souvenir comme une fumée qui l'asphyxiait. Toby ne laissait pas à sa mémoire le droit de faire ressurgir le passé. Il construisait sa vie nouvelle sur le vide, sans se douter que ses fondations finiraient par s'effondrer sur ce labyrinthe de galeries mal rebouchées. Un jour où, dans la grotte du lac, Toby disait à Elisha qu'il rêvait d'une nouvelle vie, elle lui avait répondu « Tu n'as qu'une vie, Toby. Elle te rejoindra toujours. » Toby tentait de faire mentir cette fois. Le second hiver fut moins rude. Toby découvrit la force extraordinaire de l'unité. Ce peuple tenait par tous les liens qu'il savait tisser. Dès l'été, ils liaient ensemble les tiges de longues herbes qu'ils laissaient bien en terre. Cela donnait une touffe rigide comme un donjon, dans laquelle ils se rassemblaient tous au premier froid. Le vent, la neige, les torrents de boue ne parvenaient pas à faire s'effondrer ce château de paille. Toby eut le droit d'occuper un épi. C'est au cours de cet hiver qu'il réussit peu à peu à apprivoiser Ilaya. Tête de lune, qu'on appelait encore brin de lin, vit alors sa sœur retrouver des pommettes plus rouges et des yeux moins hostiles. Elle ne parlait pas encore à Toby, mais elle acceptait de l'écouter, les yeux baissés. Toby ne se doutait pas qu'il faisait naître quelque chose de plus profond dans le cœur de la jeune Pelée. Il y a un proverbe Pelée qui dit « Ce que l'on sème dans une plaie avant qu'elle ne se referme donne une fleur captive qui ne meurt jamais. » Ilaya était en train de tomber amoureuse. Elle passait lentement d'une haine passionnée à une autre forme de passion. On aurait pu imaginer que ces deux cœurs, balayant une bonne fois leur passé, puissent se retrouver et assembler un bonheur nouveau. Mais le cœur de Toby était prisonnier dans les caves sombres de sa mémoire. Un événement extraordinaire vint l'en sortir et replongea Toby dans l'aventure de sa vraie vie. « Tu n'as qu'une vie, Toby. »